aujourd'hui, mon but et mon propos, c'est d'essayer de donner l'idée la plus claire possible de ce que signifie la théorie darwinienne de l'évolution. Et je le ferai en commençant par vous dire que si un de ces jours vous vous sentez d'humeur un peu taquine, à sticoter vos profs, vous pouvez aller voir votre professeur de SVT, et je vous donne un moyen très très simple et très très sûr de le faire enrager, c'est de lui dire que nous avons des yeux pour voir et que les oiseaux ont des ailes pour voler. Vous allez le voir faire un bond jusqu'au plafond. Il va vous dire pas du tout. Il ne faut pas dire que nous avons des yeux pour voir ou que les oiseaux ont des ailes pour voler. Il faut dire que nous voyons parce que nous avons des yeux et que les oiseaux volent parce qu'ils ont des ailes. Et encore, tous les oiseaux ne volent pas. Alors, vous allez peut-être insister et puis dire, mais quand même, c'est drôlement bien fait pour voler un oiseau. Quand on regarde un goéland, par exemple, on a l'impression que c'est très très bien conçu pour ce que ça fait, c'est-à-dire planer. Que, par exemple, les os, les muscles, les plumes, les nerfs, tout ça, c'est très bien agencé pour remplir toutes les opérations nécessaires au vol plané. Que si, par exemple, vous remplaciez sur l'aile du goéland les plumes du goéland par des plumes de moineau ou par des plumes d'autruche, ça marcherait certainement moins bien. Et que si vous connectiez, par exemple, l'aile du goéland à un cerveau de kiwi qui ne vole pas, ou même à un cerveau, par exemple, de poule ou de canard, ça volerait peut-être plus du tout. Alors, je pense que le prof de SVT, là, il vous dira ceci. Bon, il dira, d'accord, oui, c'est vrai, je reconnais. Alors, disons les choses comme ça. Disons que le goéland est adapté au vol et disons que la fonction de l'aile du goéland est de voler. Voilà. Mais, il ajoutera, je vous défends strictement d'utiliser le petit mot « pour ». Alors, ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est trois choses. La première, je voudrais montrer que le professeur de sciences de vie et de la Terre a d'excellentes raisons, a de très très bonnes raisons de refuser qu'on dise que l'oiseau a des ailes pour voler et que nous avons des yeux pour voir. Je montrerai ces raisons. La deuxième chose que je voudrais montrer, c'est qu'on peut réconcilier le professeur de SVT avec ceux qui disent que nous avons des yeux pour voir et que les oiseaux ont des ailes pour voler. Et je voudrais montrer pourquoi c'est précisément la théorie de Darwin qui permet cette réconciliation. Enfin, troisièmement, je voudrais montrer que nous avons donc le droit de dire, en un certain sens, et à condition de préciser cette signification, nous avons le droit de dire que l'oiseau a des ailes pour voler et que nous avons, nous, des yeux pour voir. Alors, premier point, pourquoi la science, les scientifiques, ont-ils de bonnes raisons de refuser ce type d'explication qui se présente sous la forme du petit mot « pour ». Qu'est-ce qui fait que la science a si peur de ce petit mot ? C'est que dire que l'oiseau est fait pour voler, c'est parler comme si quelqu'un avait conçu l'oiseau, l'avait imaginé, jusque dans ses moindres détails, avant de le réaliser, à la manière dont un ingénieur conçoit une machine, afin qu'ensuite les techniciens et l'industrie réalisent cette machine. Et en effet, c'est tout à fait comme ça que ça se passe pour les objets qu'on appelle artificiels. C'est bien comme ça que ça marche. Une coque de bateau, par exemple, une voiture, un ordinateur, tout ça, ce sont des objets qui sont conçus par un esprit. En fait, d'ailleurs, le plus souvent, qui sont conçus par plusieurs esprits, c'est-à-dire des équipes d'ingénieurs. Si vous voulez absolument parler la langue qu'on parle, vous dites une équipe de designers, ce sont des ingénieurs. Qui essayent, qu'est-ce qu'ils font ces ingénieurs quand ils conçoivent la coque de bateau, la voiture, l'ordinateur? Ils essayent d'optimiser tous les détails pour que le fonctionnement de l'objet achevé, fini, soit finalement le plus efficace possible. C'est-à-dire qu'un objet artificiel, que ce soit un objet qui vient de l'artisanat ou de l'industrie, c'est un objet qui est le résultat d'une intention, d'un but, d'un projet, et d'une intention, d'un but et d'un projet guidé par une intelligence. Or, et ça c'est un argument que vous pouvez présenter à votre professeur de sciences de vie et de la Terre, c'est un fait que les êtres vivants ressemblent par certains côtés, par bien des côtés, aux machines artificielles, celles que fabriquent nos ingénieurs et nos techniciens. Un goéland, ça ressemble à une machine faite pour se déplacer dans les airs. Par exemple, le système de perception nocturne qui permet, vous savez, aux chauves-souris de repérer leurs obstacles afin de ne pas se cogner et surtout de situer leurs proies pour les attraper. Ça ressemble de très très près à ce que nous, nous fabriquons et que nous appelons un radar. De la même façon, on pourrait multiplier les exemples, il y en aurait une quantité indéfinie. J'en prendrai un troisième, un système venimeux de serpents. Ça ressemble à une machine à tuer par empoisonnement. Les crochets à venin, les glandes à venin, sans parler de la composition chimique, parce que la composition chimique du venin des serpents, c'est quelque chose d'absolument prodigieux. Vous avez des venins neurotoxiques qui paralysent l'activité du système nerveux en agissant au niveau des synapses. Vous avez des venins hémolytiques qui brisent les globules qui sont chargés du transport de l'oxygène dans le sang. Bref, ce sont de petites merveilles de techniques meurtrières, ces serpents venimeux. Serpents ou autres, d'ailleurs, il y a des batraciens venimeux. Vous touchez certaines grenouilles arboricoles dans la forêt amazonienne, vous mourrez dans la minute. Hein, vous les touchez, vous mourrez dans la minute. C'est quand même particulièrement efficace. Les êtres vivants, d'ailleurs, ressemblent tellement à des machines que nous nous inspirons des êtres vivants pour construire nos propres machines, pour concevoir nos machines. Il y a beaucoup de techniques humaines qui sont issues de l'observation des êtres vivants, des organismes. Il y a même un nom pour désigner cette discipline qui s'appuie sur l'imitation des êtres vivants pour concevoir des machines pour la technique. C'est ce qu'on appelle la bionique. Ça s'appelle la bionique. Mais par exemple, nos ingénieurs sont toujours incapables de fabriquer un truc aussi performant, par exemple, qu'une mouche. L'hélicoptère, c'est pas mal, c'est utile, c'est efficace, ça marche bien, ça remplit des fonctions intéressantes et ça rend des grands services, mais c'est très très loin d'être capable de faire ce que fait une mouche, ou une libellule, par exemple. Alors, dire que les oiseaux ont des ailes pour voler, ou dire que nous avons des yeux pour voir, c'est faire comme s'il y avait, derrière les choses naturelles, un ingénieur ou un designer, comme il y en a derrière une ampoule électrique, un MP3, un ordinateur ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on appelle une explication finaliste. Une explication finaliste, c'est-à-dire une explication qui explique quelque chose par le but que cette chose est censée atteindre. Le but ou la fin, d'où finaliste. Si vous voulez causer le langage des philosophes, vous utiliserez un mot que vous connaissez peut-être, qui est le mot téléologique. C'est une explication téléologique. Ça vient du grec télos, qui veut dire la fin, le but. L'explication téléologique, c'est l'explication qui explique à partir de la fin. Attention, parce que dans téléologique, d'abord, il n'y a pas d'H, et ensuite, le télé n'a rien à voir avec le télé de télévision ou de téléphone, qui veut dire à distance. Là, c'est télos, c'est la fin, le but. Exemple d'explication téléologique. Pendant longtemps, par exemple, on a dit, s'il y a des montagnes sur la Terre, s'il y a des montagnes à des endroits où personne ne peut habiter, les hautes montagnes, personne n'y vit, ça a l'air de ne servir à rien. Pendant longtemps, on a dit, s'il y a des montagnes, c'est afin de servir de réservoir d'eau potable aux plaines. Les montagnes étaient des espèces de grands châteaux d'eau naturels que la Providence aurait installés sur la Terre pour alimenter en eau les zones habitables. De même, on a longtemps dit que s'il y avait des saisons, si des saisons différentes se succédaient pendant l'année, c'était pour organiser, pour réguler le cycle de la végétation sur la Terre. Bon, éventuellement, pour nous permettre d'aller sur la plage et sur les pistes de ski. Mais enfin, pendant très longtemps, on a dit, voilà, ça sert à faire pousser des fleurs, des feuilles, des fruits. Et pensez, qu'est-ce que ce serait Bordeaux s'il n'y avait pas les saisons, parce qu'il n'y a plus de cèpes de Bordeaux, il n'y a plus de vendanges. Bon, très utile, les saisons. Alors, ça, c'est ce qu'on a pensé et dit et écrit pendant des siècles, même des millénaires. Aujourd'hui, la science explique très bien l'existence des massifs montagneux. Elle les explique par le contact des plaques tectoniques, la dérive de continents, le fait que, au contact des plaques tectoniques, des phénomènes de surrection se produisent, des choses se soulèvent. Ça, c'est une explication qui n'a absolument rien de finaliste. On ne dit pas le mot pour, on ne dit pas dans tel ou tel but. De même qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, les saisons existent parce que Tout simplement parce que l'axe de rotation de la Terre sur elle-même est incliné par rapport à l'axe de, par rapport au plan de rotation de cette même Terre autour du Soleil. Tout le monde est supposé savoir ça ici, je présume. Quelquefois, j'ai des surprises. En particulier, je vous conseille de réfléchir à l'explication que j'entends souvent donner sur les saisons, consiste à dire qu'il y a des saisons parce que la Terre n'est pas toujours à la même distance du Soleil. Réfléchissez à ceci, que quand c'est l'été dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord et réciproquement, les saisons sont dues à l'inclinaison de l'axe de la Terre. Bon, 23 degrés, 27 minutes, si vous voulez tout savoir. Ce qui fait que les rayons solaires ne frappent pas toutes les régions du globe avec le même angle d'incidence. Ça frappe plus ou moins fort. Bah, il y a des saisons. Ça aussi, c'est une explication qui n'a rien de finaliste, qui n'emprunte rien à l'idée d'un but. On peut dire que la science, c'est quelque chose qui est né à peu près au XVIIe siècle, si on accepte les mathématiques qui sont plus anciennes. Mais la science est née à peu près au XVIIe siècle quand on a définitivement renoncé à ce type d'explication qu'on appelle finaliste ou téléologique, quand des gens comme Copernic, Galilée, Kepler, Descartes, Pascal, mais on pourrait en énumérer encore beaucoup, beaucoup d'autres, quand des gens comme ça ont décidé de rompre, une fois pour toutes, avec ce type d'explication. Et assez rapidement, il est devenu un principe absolument fondamental de la science que d'interdire, d'expliquer quoi que ce soit de cette manière. Si bien que il est aujourd'hui admis, et il est admis de façon parfaitement légitime, et je crois définitive, qu'on n'a donné aucune explication scientifique d'un phénomène quelconque, d'un fait, d'un événement, de quoi que ce soit qui se produit dans la nature, on n'a donné aucune explication scientifique valable lorsqu'on a dit que ceci se produit pour cela ou en vue de cela. Et c'est en ce sens que votre professeur de sciences de la vie et de la Terre a parfaitement raison de refuser qu'on dise que nous avons des yeux pour voir et que les oiseaux ont des ailes pour voler. Je ne pense pas que la science reviendra jamais sur ce principe. Seulement, il faut ajouter ceci, que les êtres vivants sont des êtres un peu particuliers. Les êtres vivants sont des êtres qui ont certaines propriétés singulières sur lesquelles il faut s'arrêter un petit peu. Imaginons un scientifique, par exemple un géologue, qui se promène en montagne et qui se trouve devant une montagne, au pied de cette montagne un lac, comme on en trouve fréquemment dans les montagnes, et qui se demande pourquoi, par exemple, la montagne et le lac ont telle forme ou telle couleur. Il se pose la question, voilà. Bah, qu'est-ce qui explique que cette montagne présente telle couleur, plutôt brune, plutôt jaune, plutôt grise, et que ce lac, il est bleu, il est vert, il est noir, qu'est-ce qui fait qu'ils ont aussi telle ou telle forme ? Je crois qu'il est absolument évident pour tout le monde que la question de savoir à quoi ça pourrait bien servir à cette montagne d'avoir cette couleur ou cette forme, à quoi ça pourrait bien servir à ce lac de présenter telle forme ou telle couleur, sont des questions qui n'ont strictement aucun intérêt. Je pense que personne ne prendrait au sérieux qui que ce soit qui poserait ce genre de questions. Pour la montagne, la réponse à la question « pourquoi cette forme, pourquoi cette couleur ?» elle se trouve dans la composition physique rocheuse de la montagne en question. Et pour la couleur, pour la forme également, de même pour le lac, la réponse à la question « pourquoi cette forme, pourquoi cette couleur ?» se trouve, par exemple, pour la forme du lac dans le travail des glaciers qui ont creusé le cirque dans lequel se trouve maintenant le lac. Les lacs sont très souvent des résidus de glaciers. Et pour sa couleur, elle se trouve dans la couleur du ciel, en général d'ailleurs. C'est la couleur du ciel qui explique la couleur du lac, ou la végétation aquatique. Par exemple, les montagnes granitiques n'ont pas la même forme que les montagnes calcaires, elles n'ont pas la même couleur non plus. Tout ça, ce sont des explications, bien sûr, qui ne font pas intervenir la notion de fin. Et si on se posait des questions de type finaliste face à une montagne ou à un lac, ou face à un nuage, par exemple, ou face à un cristal même, ce sont des questions qui paraîtraient complètement, complètement ineptes. Même, je pense, à un jeune enfant, elle paraîtrait un petit peu curieuse, ces questions. Donc, concernant une chose non vivante, une chose inerte, la question « à quoi cela sert-il de lui d'avoir, à quoi cela lui sert-il d'avoir telle ou telle propriété, est une question qui n'a tout simplement aucun sens. Seulement, pour un être vivant, les choses sont différentes. Parce que, prenons un exemple, bon, il y en a peut-être ici qui pêche les gros poissons, ceux qui ont regardé, commençaient dans la gueule d'un brochet, par exemple, se sont aperçus d'une chose, que tout l'intérieur de la gueule d'un brochet, qui est un poisson carnassier, tout l'intérieur de la gueule d'un poisson comme le brochet, est garni de petites dents qui ont cette propriété de se replier vers l'intérieur de la bouche et de se plaquer à l'horizontale contre les parois du palais ou de la langue, et de se relever dans l'autre sens en allant jusqu'à la position perpendiculaire sans aller jusqu'à se replier dans le sens de l'ouverture. Ça, évidemment, si on se demande à quoi ça sert, la réponse est évidente, ça sert à permettre à un poisson, à une proie, de passer dans le sens qui convient au brochet, qui ne convient pas à la proie, ça c'est sûr, mais qui convient au brochet, et de l'empêcher de ressortir. Si on se pose cette question-là, la réponse vient immédiatement. Maintenant, on peut poser une question dont la réponse est moins évidente. Pourquoi ce brochet a-t-il le ventre blanc ? C'est une question. Pourquoi est-ce qu'il a le ventre blanc ? Là, la réponse s'impose de façon moins évidente. La réponse, elle tient à ceci, que la couleur blanche, c'est ce qui rend le poisson le moins visible quand il est vu du dessous. Parce que dans le milieu aquatique, contrairement à ce qui se passe sur Terre, où les prédateurs arrivent rarement d'en bas, dans le milieu aquatique, les prédateurs peuvent venir de toutes les directions de l'espace, y compris par en dessous. Et donc, c'est une protection. On peut trouver des exemples encore moins évidents. Je vais prendre un exemple. Je pense que tous les élèves de terminale, plus ou moins, ont entendu parler des abeilles. Il est toujours question des abeilles quand il s'agit de montrer la merveilleuse perfection du langage humain par rapport aux misérables gesticulations de ces insectes qui ne savent rien faire d'autre que de danser en huit. Mais les abeilles sont intéressantes pour une autre raison. On s'est aperçu, quand on a étudié la vision des abeilles, que les abeilles voient les couleurs. Je ne sais pas ce qu'une abeille voit quand elle voit des couleurs, mais elle distingue les couleurs, elle discrimine les couleurs. On sait que les abeilles, donc, distinguent les couleurs, mais on sait aussi qu'elles n'ont pas le même spectre de vision que nous. Ça veut dire que, par exemple, dans le rouge, elles ne voient rien. Elles ne connaissent pas les longueurs d'onde correspondant au rouge. En revanche, les abeilles voient dans une zone où nous ne voyons rien, nous, elles voient en ultraviolet. Un objet qui est éclairé en ultraviolet, pour vous, il n'a pas de couleur spéciale. Les ultraviolets, vous ne les voyez pas, c'est ce qui vous permet de prendre des coups de soleil sans vous en apercevoir. Les abeilles, elles voient en ultraviolet. Alors on s'est posé la question, mais à quoi est-ce que ça peut bien servir aux abeilles de voir dans la zone de l'ultraviolet ? Et on s'est dit, mais les abeilles, elles s'intéressent aux fleurs, elles ont un rôle dans la pollinisation, elles butinent, et on va regarder du côté des fleurs. Et on a photographié les fleurs avec des caméras, des pellicules sensibles à l'ultraviolet. Et là, surprise, qu'est-ce qu'on voit sur les fleurs ? On voit des dessins en ultraviolet. Il y a, sur les fleurs, ou sur certaines fleurs, des dessins en ultraviolet. Il y a des motifs. Nous ne les voyons pas, puisque l'ultraviolet ne fait pas partie de notre spectre de perception sensible. Mais les abeilles, elles voient des dessins sur les fleurs en ultraviolet. Ça, c'est le type même de résultat qu'on a pu obtenir qu'en posant la question « à quoi bon ?»« À quoi est-ce que ça lui sert ?» Question, je répète, qui n'aurait aucun sens pour un être non vivant. Je pense même que c'est peut-être ça qui permettrait de tracer la frontière entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Je dirais qu'un être vivant, c'est un objet à propos duquel il est toujours intéressant de poser la question « à quoi cela lui sert-il d'être fait de telle ou telle façon ?» d'avoir telle ou telle propriété. Quand je dis que c'est toujours intéressant de poser la question, je ne dis pas qu'on aura toujours la réponse. Mais c'est une question qu'il est toujours intéressant de se poser. Et on retrouve ici la proximité des êtres vivants avec les objets techniques. Quand Renault sort une nouvelle voiture, qu'est-ce qu'on fait chez Peugeot ? On achète la voiture et les ingénieurs de chez Peugeot, ils démontent la voiture. C'est peu dire qu'ils la démontent. Ils la dissèquent, ils la décortiquent. Et ils vont se demander, tiens, pourquoi est-ce que Renault a mis le carburateur dans cette position bizarre, différente de la position qu'avait le carburateur sur le modèle antérieur? Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé pour telle pièce du plastique alors que nous, on utilise de l'acier? Cette opération, elle s'appelle ingénierie inverse. Il ne s'agit plus de savoir comment on va obtenir, quel moyen on va utiliser pour obtenir telle fin, pour atteindre tel but. Il s'agit de savoir, en présence du moyen, à quel but, à quelle fin ce moyen pourrait bien servir. On trouve ou on ne trouve pas. Si vous démontez votre ordinateur, Si vous demandez pourquoi tel fil passe par ici ou pourquoi telle pièce est disposée par rapport à telle autre de telle façon, vous n'aurez pas forcément la réponse en termes de finalité. Mais cette réponse, elle existe peut-être. Je ne dis pas qu'elle existe forcément d'ailleurs, mais elle existe peut-être. Seulement, il faut ajouter ceci. C'est que s'il est toujours intéressant de se poser la question « à quoi cela sert-il à tel être vivant d'avoir telle propriété ?», il n'y a pas forcément à cette question de réponse. Il y a même plus grave, c'est que cette question peut vous conduire à une mauvaise réponse, elle peut vous mettre sur une fausse piste. Je vais prendre deux exemples. Il y a, assez profondément enfoncé dans le corps des baleines, non visibles donc, de l'extérieur on ne les voit pas, il y a des espèces de petites ébauches, ou alors des restes, on ne sait pas trop, de pattes. Il y a des os de pattes dans le corps des baleines, mais ils sont enfoncés à l'intérieur de la chair, on ne les voit pas. Et à la question « à quoi est-ce que ça sert aux baleines d'avoir ça ?», la réponse est très, très, très probablement à rien. Un autre exemple, vous savez sans doute que les os du crâne sont... le crâne n'est pas un os unique, il est fait de plusieurs os qui sont joints par ce qu'on appelle les sutures. On s'est demandé à quoi pouvaient servir les sutures du crâne. Darwin lui-même s'était posé la question. Et on avait proposé cette réponse. On lui avait posé cette réponse, mais bon, chez les mammifères vertébrés, l'enfantement se fait par accouchement et ça facilite sans doute le passage que le corps, la boîte crânienne du nouveau-né soit plus ou moins malléable, souple, du fait que ces sutures jouent le rôle de charnière. Et vous savez d'ailleurs que les sutures ne sont pas très très bien scellées chez les nouveau-nés et que le crâne du nouveau-né est encore mou. On se dit, bah oui, c'est pour faciliter le passage. Bah oui, mais manque de bol, c'est que les sutures du crâne, elles existent aussi bien chez les oiseaux. Or, les oiseaux, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est de percer la coquille de l'œuf avec leur bec, et par conséquent, spéculer sur l'utilité des sutures du crâne chez les mammifères en se disant, en donnant comme réponse, ça leur sert à faciliter le passage lors de l'accouchement, c'est certainement une mauvaise réponse, puisque les oiseaux à qui ça ne sert à rien ont aussi cette propriété d'avoir les os du crâne séparés par des sutures. Alors, maintenant il faut se poser deux questions, qui sont les suivantes. Pourquoi la question « à quoi cela sert-il » est-elle une question intéressante pour les êtres vivants et pas pour les autres ? Pourquoi est-ce que c'est une bonne question pour les vivants et une mauvaise question pour les choses inertes ? Après tout, les êtres vivants et les choses inertes sont des productions de la nature, au même degré, viennent du même endroit. Alors pourquoi sont-ils soumis, on va dire, à des principes ou à des lois différentes ? Deuxièmement, pourquoi y a-t-il dans un être vivant des choses qui ne servent à rien ? Pourquoi la nature a-t-elle donné aux êtres vivants des propriétés, des choses qui n'ont aucune utilité ? Eh bien justement, ce que je voudrais montrer, c'est que c'est la théorie de Darwin qui permet justement de répondre à ces questions. Darwin, c'était un naturaliste. On dirait aujourd'hui un biologiste. Alors un biologiste, c'est en général, assez souvent, très souvent même, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre comment les organismes vivants fonctionnent, comment ils marchent. Hein, exactement comme quelqu'un qui serait devant une montre et qui la démontrait pour savoir comment elle peut arriver à faire ce qu'elle fait, à savoir donner l'heure. Eh bien, depuis quelques siècles, on démonte les machines vivantes, c'est-à-dire qu'on les dissèque, ou on les observe d'une autre façon. On démonte les machines vivantes et on se sert des observations pour essayer de comprendre comment ça marche. Bon, par exemple, depuis le XVIIIe siècle à peu près, on sait comment une machine vivante respire. Au moins, nous savons comment nous respirons avec nos poumons. C'est au XIXe siècle à peu près qu'on a appris, par exemple, comment fonctionnait un organe comme le foie. Il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on sache comment fonctionne la reproduction humaine. Aujourd'hui, le grand défi, la grande affaire qui nous attend, qui est devant nous, et là on s'intéresse beaucoup à cette question, et les biologistes travaillent d'arrache-pied à ça, ça va être de savoir, ça c'est le grand défi des décennies à venir, on a déjà beaucoup avancé mais il reste beaucoup à faire, comment par exemple un organe comme le cerveau produit l'activité psychique de l'homme. Et peut-être aussi d'autres animaux que l'homme. Seulement, imaginons que nous sachions parfaitement comment fonctionnent les machines vivantes. Imaginons que même la digestion, la locomotion, la reproduction, que tout cela n'ait plus aucun secret pour nous. Imaginons que nous aurions percé tous les mystères et que nous en sachions autant sur le fonctionnement d'un organisme vivant que nous savons comment fonctionne une voiture ou un avion, parce que pour ça, il n'y a pas de mystère, c'est nous qui les avons fabriqués. Eh bien, il y a une question qui se poserait encore, qui est la suivante. D'où sortent de tels objets et comment peuvent-ils exister? Parce que les voitures et les avions, nous savons d'où ils sortent. Nous les avons conçus, nous les avons pensés, puis nous avons fabriqués. Très bien, là, il n'y a pas de mystère. Mais ces êtres capables de toutes ces performances, d'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les a fait? Comment est-ce qu'ils se sont produits? Eh bien, Darwin, c'est quelqu'un qui s'est posé ce genre de questions. Il s'intéressait aussi au fonctionnement. C'est quelqu'un qui savait beaucoup de choses et qui a découvert même des choses sur la façon dont fonctionnent les êtres vivants. Mais lui, ce qui l'intéressait était un peu autre chose. La grande question qui s'est posée, c'est comment des trucs comme ça peuvent exister, simplement. D'où sortent-ils? Ce n'est pas la question du fonctionnement, c'est la question de l'origine. C'est la question de savoir donc, d'où viennent de tels êtres. Alors, je ne vais pas vous réciter la théorie de Darwin, mais il faut quand même rappeler l'essentiel, au cas où il serait utile de rafraîchir les souvenirs. Il y a deux piliers de la théorie de Darwin, deux piliers. Je ne dis pas que tout se ramène à ça et qu'on a tout dit, mais il y a deux choses fondamentales. La première, c'est la variation. Tous les êtres vivants sont différents les uns des autres. Même dans une ruche, même au sein d'un troupeau de moutons où ça a l'air de se ressembler, il n'y en a pas deux qui sont exactement pareils. Et les descendants ne sont jamais la copie conforme des ascendants. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire en toute rigueur que les êtres vivants se reproduisent. Non, ils ne se reproduisent pas, ils font du différent. Il n'y a que des différences dans le monde vivant. Ça, c'est le premier point, c'est une observation. Darwin ne pouvait pas savoir exactement pourquoi, nous savons mieux pourquoi, mais c'est un fait dont il avait parfaitement conscience. Deuxième principe essentiel de la théorie de Darwin. Étant donné que tous les êtres vivants sont différents, et qu'ils ont tous à affronter un milieu dans lequel ils ont à survivre, à se nourrir, à attraper des proies, à échapper aux prédateurs, à se protéger des intempéries, à faire face aux modifications du milieu, d'humidité, de composition chimique, etc. Et étant donné qu'ils ont à faire face à l'impératif de se reproduire, ils ne sont jamais parfaitement égaux les uns avec les autres. Certains réussissent mieux que d'autres à faire tout ça. Ce qui veut dire que statistiquement, les variants un peu plus performants ont davantage de chances de se reproduire et de léguer leur variation favorable à une descendance en se reproduisant. Attention, vous pouvez être très performant et ne pas survivre ni jamais vous reproduire, par malchance. Vous pouvez être très peu performant et passer à travers les mailles du filet de ce qu'on appelle la sélection naturelle. C'est un peu comme un examen, si vous voulez. Vous pouvez n'avoir rien révisé, vous pouvez être vraiment un mauvais élève qui n'a rien appris, sauf un truc ou deux, et qui tombe le jour de l'examen sur le truc qu'il a révisé. Vous allez passer. Alors que peut-être celui qui est à côté, qui a beaucoup travaillé, qui a bien révisé, sauf un truc ou deux, bah, si c'est le truc ou deux qu'il n'a pas révisé qui tombe, lui ne va pas passer. Il n'empêche que statistiquement, parce que je ne voudrais pas être accusé de... éventuellement faire de la publicité pour la fainéantie scolaire, il se trouve que statistiquement, vous avez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances d'obtenir l'examen ou le concours, si vous avez beaucoup révisé, même si vous avez fait une ou deux impasses, que si vous n'avez rien fait du tout. Et bien c'est comme ça que ça se passe dans la sélection naturelle. Ça se passe comme ça dans la sélection naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les meilleurs qui passent au travers de la sélection naturelle, mais c'est le plus souvent, eux. Et donc, ainsi, de génération en génération, les variations favorables par rapport au milieu, ces variations favorables se transmettant aux générations futures. La sélection naturelle sculpte les êtres vivants. Je vais vous lire maintenant la seule citation de Darwin que je vous lirai d'aujourd'hui, qui est parfaitement explicite. Ça se trouve dans le chapitre 4 de l'origine des espèces. On peut dire par métaphore que la sélection naturelle est à chaque instant et dans l'univers entier, occupée à scruter les moindres variations, rejetant celles qui sont mauvaises, conservant et additionnant toutes celles qui sont bonnes, travaillant insensiblement et sans bruit, partout, et toutes les fois que l'occasion s'en présente, à l'amélioration de chaque être organisé, dans ses rapports tant avec le monde organique qu'avec les conditions inorganiques. Ces lentes et progressives transformations nous échappent, jusqu'à ce que, dans le cours des âges, la main du temps les ait marquées de son empreinte, et alors, nous nous rendons si peu compte des longues périodes géologiques écoulées que nous nous contentons de dire que les formes vivantes sont aujourd'hui différentes de ce qu'elles étaient autrefois. Et ceci est le texte essentiel qui nous explique
très précisément l'idée suivante. C'est que la sélection naturelle, travaillant à partir des variations, c'est une immense machine à fabriquer de la finalité. C'est une immense machine à fabriquer de l'adaptation, de la finalité et... Alors, je vais maintenant prononcer, je demande à ceux qui dorment de se réveiller juste 30 secondes, je vais prononcer la phrase la plus importante de tout mon exposé. La voici. Je la prononce et je la répéterai. Le génie de Darwin, l'immense découverte de Darwin, c'est d'avoir compris qu'un processus aveugle, un processus qui n'a aucune intention, qui ne poursuit aucune fin, qui n'est guidé par aucun but, auquel ne préside aucune intelligence, et bien que ce processus peut produire des objets qui donnent l'impression d'avoir été conçus et réalisés par une intelligence qui poursuit des fins. Je vais répéter parce que ça c'est l'essentiel, puis après vous pourrez vous rendormir. Le génie de Darwin, hein, ce qui est le plus important, ce qu'il faut retenir de ce qu'il a découvert, de ce qu'on doit à quelqu'un comme Darwin, et ça c'est une découverte qui va bien au-delà même de la biologie, parce qu'elle a des applications bien ailleurs que pour la connaissance du vivant. L'idée géniale de Darwin, c'est d'avoir montré qu'un processus aveugle, sans intention, sans intelligence, sans but, un processus qu'on pourrait dire entièrement livré au hasard, eh bien, bien qu'il ne poursuive aucune fin, et qui ne soit guidé par aucune intelligence, peut produire des objets qui donnent le sentiment à celui qui les regarde, qui donnent l'impression d'avoir été conçus et réalisés par une intelligence poursuivant certaines fins. Exactement, si vous voulez, comme quelques siècles avant Darwin, à peu près aux environs de 3 siècles avant Darwin, le génie de Copernic et de Galilée avait été de montrer comment une planète qui tourne autour d'une étoile et qui tourne sur elle-même peut donner à ceux qui sont sur cette planète l'impression de se trouver sur un sol absolument fixe et stable autour duquel tout tourne. C'est pareil, c'est la même chose. Alors on comprend maintenant, je pense qu'on peut comprendre maintenant pourquoi, en quoi, en quel sens il est permis de dire que nous avons des yeux pour voir et que les oiseaux ont des ailes pour voler. C'est que nos yeux sont le résultat d'un processus cumulatif, un processus extrêmement progressif, extrêmement lent et long, qui s'est déroulé sur des centaines de millions d'années. Un processus au cours duquel la sélection naturelle est partie de dispositifs rudimentaires de sensibilité à la lumière, peut-être des cellules qui avaient une sensibilité photoréceptrice, et les a progressivement améliorées à proportion de l'avantage que présentaient pour ceux qui les possédaient ces dispositifs. C'est pas grand-chose de savoir distinguer le jour et la nuit, mais c'est quelque chose qui peut vous apporter un plus pour faire face aux exigences du milieu. C'est pas grand-chose d'être capable simplement de distinguer un mouvement, quelque chose qui passe, sans être capable de l'identifier. Mais ça n'est pas rien du tout non plus. Et l'évolution par sélection naturelle, elle a travaillé sur ces variations, sur ces possibilités dont disposaient certains êtres vivants. Et il n'est pas très difficile d'imaginer, beaucoup moins difficile que ne le croient et que ne le disent certains, d'imaginer comment, avec un nombre de générations qui n'a même pas besoin d'être aussi grand que celui dont nous disposons avec l'âge des espèces vivantes et de la Terre, comment la nature a pu produire ces choses que sont aujourd'hui les yeux. D'ailleurs, on connaît, dans l'ensemble du monde vivant, on connaît un grand nombre d'organes photosensibles qui sont des variantes d'œil. On connaît des yeux qui sont parvenus à un niveau, on va dire, de perfectionnement optique très inférieur au nôtre. On en connaît aussi, d'ailleurs, qui sont capables de performances supérieures au nôtre, par certains aspects. Vous savez, par exemple, que les oiseaux de proie voient plus loin, mieux que nous. Pour les ailes des oiseaux, par exemple, on sait que les plumes des oiseaux, qui aujourd'hui nous paraissent être des merveilles d'adaptation au vol, elles n'ont pas, à l'origine, été sélectionnées pour l'intérêt qu'elles présentaient pour le vol. Elles ont été retenues par la sélection naturelle pour des raisons qui tiennent au départ à leurs propriétés thermiques. Le duvet, ça tient chaud. La plume s'est perfectionnée par l'effet de la sélection naturelle parce qu'elle avait la propriété de protéger ceux qui en portaient du froid. Et ensuite seulement, elle s'est révélée offrir des possibilités pour la sustentation dans l'air. Elle a été sélectionnée aussi pour ça, tout en continuant d'ailleurs de jouer un rôle thermique, puisque vous avez observé les oiseaux quand il fait très froid, ils se gonflent, ils sont chauds, et c'est pour ça que nous, nous faisons des vêtements en duvet. Je vais lire quelques lignes très très brèves d'un livre qui avait été écrit il y a fort longtemps, 40 ans, 1970, Jacques Monod, l'un de nos prix Nobel de médecine, en 1965, un livre qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Et il écrit ceci. Et là, ce que je vais dire s'adresse autant aux professeurs qu'aux élèves. Je parle aux professeurs de sciences de vie de la Terre. « Les êtres vivants, je cite Jacques Monod, sont des objets doués d'un projet. » C'est Monod qui souligne. « Doués d'un projet, qu'à la fois ils représentent dans leur structure et accomplissent par leur performance. » Et Jacques Monod ajoutait ceci. « Plutôt que de refuser cette notion, ainsi que certains biologistes ont tenté de le faire, il est au contraire indispensable de la reconnaître comme essentielle à la définition même des êtres vivants. Nous dirons que ceux-ci se distinguent de toutes les autres structures, de tous les systèmes présents dans l'univers, par cette propriété que nous appelons la téléonomie. » La téléonomie, ça veut dire, c'est du grec encore, « telos » la fin, « nomos » la loi. La téléonomie, c'est la propriété d'un être vivant dont la loi de constitution, dont la loi de fabrication, obéit à une fin. C'est pour ça que je dis que nous avons parfaitement le droit de dire qu'un oiseau a des ailes pour voler, que nous avons des yeux pour voir, et que ça ne sert absolument à rien de remplacer le pour par fonction ou par adaptation, parce que je mets ici qui que ce soit au défi, élève ou professeur de sciences de la vie et de la terre, de définir le mot de fonction sans utiliser le mot pour ou sans utiliser les formules finalistes. J'ai ici, bon, je vous la lirai si vous voulez après, pour ne pas allonger, je ne vais pas la lire maintenant, j'ai la définition de Claude Bernard de la fonction, mais elle est bourrée, remplie de termes qui sont finalistes. La fonction, le mot de fonction est finaliste. Si je dis que le goéland est adapté au vol, mais le ad en latin ici veut dire pour, adapté ça veut dire apte pour. Et maintenant, on comprend pourquoi il est légitime de poser toujours la question à quoi ça peut bien servir à cet être vivant de posséder ceci ou cela. C'est qu'il est toujours permis de supposer, je dis bien de supposer, je ne dis pas d'affirmer, il est toujours permis de supposer qu'une propriété observée a été sélectionnée par la sélection naturelle pour l'intérêt qu'elle présentait. Cette question ne conduit pas toujours à la bonne réponse. Elle peut conduire à une fausse réponse ou il peut ne pas y avoir de réponse. Par exemple, si vous demandez à quoi servent les sutures du crâne, la réponse c'est très probablement à rien. Si vous demandez pourquoi, par exemple, les baleines ont des ébauches de pattes cachées dans le corps, la réponse c'est pas parce que ça sert à quelque chose, ce sont des restes du temps où les baleines étaient d'autres animaux, ce sont des vestiges qui viennent des ancêtres des baleines, à qui ces pattes étaient utiles et chez qui elles étaient fonctionnelles. Ça reste, c'est resté. C'est là pour rien. Ce sont, si vous voulez, des résidus de l'évolution, des traces ancestrales. Si vous demandez, par exemple, ça je ne sais pas si vous le savez, mais les cornes de certains mammifères, les mouflons par exemple, ou la coquille de ce très beau coquillage qu'est le nautile, eh bien, elles sont enroulées selon une courbe mathématique et une spirale logarithmique. À quoi ça sert qu'une corde soit enroulée selon une spirale logarithmique ou la coquille d'un coquillage? Réponse, à rien. Si c'est enroulé de façon, en suivant cette courbe mathématique, c'est pour une raison simple, qui est purement mécanique, qui est une loi physique de la constitution d'objets qui croissent sous la forme spiralée. C'est tout. Ça sert à rien, la forme logarithmique. Rien. Probablement. Il faut toujours être un peu méfiant quand on dit que ça sert à rien. Mais il n'y a probablement aucune utilité. Pour le biologiste, la question « à quoi ça sert ?» c'est exactement l'équivalent de ce qu'est la question « à qui profite le crime ?» pour le policier ou pour le juge. Vous êtes devant un meurtre. Vous allez vous demander « tiens, Qui est-ce qui hérite de la fortune de ce bonhomme? Ça peut vous conduire à l'assassin. Ça peut vous conduire tout à fait à quelqu'un qui n'est pour rien. C'est une question que le policier ou le juge doit toujours se poser. Mais c'est une question à laquelle il n'a pas le droit de supposer qu'elle va lui donner, dont il n'a pas le droit de supposer qu'elle va lui donner immédiatement la bonne réponse. En biologie, c'est pareil. On se demande toujours à quoi sert ce truc. Bon, par exemple, l'appendice. L'appendice qui oblige certains à se faire opérer pour se faire enlever ce truc-là. À quoi ça sert? Bon, apparemment, ça sert à rien, mais après tout, peut-être, je suis peut-être même pas au courant, peut-être qu'on a découvert un usage de cette chose-là. Quel en est le statut, on ne sait pas, mais il faut toujours se poser la question, à quoi sert un dispositif? En fait, pour conclure, je vais vous dire, moi, pourquoi le prof de SVT, il pousse des hauts cris quand vous lui parlez en utilisant le mot pour. C'est parce que, la raison est simple, c'est parce qu'aujourd'hui, la théorie de Darwin est très violemment attaquée par des gens qui sont ce qu'on appelle, il y en a plusieurs variantes, il y en a plusieurs sortes, les créationnistes, et qui voudraient nous faire croire que cette théorie est fragile, qu'au fond, elle n'est pas plus validée qu'une hypothèse parmi d'autres, et qui se servent justement de l'argument de la finalité pour nous dire « Mais regardez, c'est tellement beau, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien agencé, un goéland, c'est une telle merveille, le venin des serpents venimeux est tellement bien composé pour tuer ». L'œil est tellement bien fait pour voir que ça ne peut être que le produit d'un dessein intelligent, d'une intelligence fabricatrice qui serait évidemment un être surnaturel, une divinité. La science n'a pas à dire si Dieu existe ou non. Ce n'est pas son boulot. Et quand je dis « si j'ai des yeux, c'est parce que Dieu a voulu que je voie », je dis peut-être quelque chose de vrai. C'est possible. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que je ne dis pas quelque chose de scientifique. La théorie darwinienne de l'évolution, elle ne dit pas « Dieu n'est pour rien dans l'existence des êtres vivants ». Elle ne dit pas cela. Elle dit « Nous pouvons expliquer cette propriété remarquable qu'ont les êtres vivants de donner l'apparence d'avoir été conçus en vue d'une fin, sans recourir à l'hypothèse d'un être supérieur, transcendant, un dieu, qui aurait, par son intelligence, par sa bonté et par sa volonté, créé tous ces êtres. » C'est tout ce qu'elle dit. Au fond, on pourrait résumer, si vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire, on pourrait résumer l'apport de Darwin en disant ceci. Darwin, c'est celui qui nous a permis de comprendre la finalité sans finalisme. Il y a une vieille plaisanterie qui dit que le biologiste, il est avec la finalité, comme avec une femme, une maîtresse dont il ne peut pas se passer, mais avec qui il n'a surtout pas envie d'être vu en public. Eh bien maintenant, grâce à Darwin, nous savons que le biologiste peut se montrer sans avoir honte en compagnie de la finalité. Et je dirais même plus, alors ça je le dis peut-être plus encore pour les professeurs de sciences de vie de la Terre que pour leurs élèves, mais je le dis aussi pour les élèves, je terminerai en disant ceci, il est intellectuellement impossible de comprendre le sens de la théorie darwinienne sans passer par la finalité. Il est impossible de comprendre l'intérêt de la théorie de Darwin si on ne pose pas d'abord ce fait, comme l'ont fait Jacques Monod, François Jacob et d'autres biologistes encore, sans partir de ce fait que les êtres vivants sont des êtres, comme dit Jacques Monod, doués d'un projet. Je peux vous garantir que Jacques Monod n'avait aucune sympathie pour le créationnisme, ni aucune espèce de tentation religieuse d'aucune sorte. C'était même un athée bouffeur de curé, il avait cette réputation-là, et quand il dit « les êtres vivants sont doués d'un projet », c'est pas du tout pour nous conduire, en catimini, à croire en Dieu. Il faut donc reconnaître le droit de dire « nous avons des yeux pour voir et les oiseaux ont des ailes pour voler », alors que ça n'aura jamais aucun sens de dire que, par exemple, le soleil brille pour nous chauffer ou que le granit est dur pour résister à l'érosion. Je vous remercie, je m'arrête là.